Les midis de culture. Marie Laborie.
Alors, je ne vais pas vous raconter d'histoire, mon invité du jour et moi, on se connaît un peu, pas beaucoup, mais quand même. On a des souvenirs, des soirées, des concerts, des coulisses, des amis en commun. Alors forcément, je me suis demandé tout le week-end comment on allait parler de ce nouveau livre qu'il vient de sortir, parce que c'est un livre qui parle de son enfance, qui parle de sa peur de petit garçon, de fuite, de ces choses dont il est peut-être plus facile de parler à une inconnue ou à des lecteurs multiples qui n'ont pas de nom précis. Mais bon, il est là, j'en suis très heureuse, alors allons-y. Bonjour Bertrand Belin.
Bonjour.
Et bienvenue dans les Midis de Culture.
Merci.
Alors votre nouveau livre, La Figure, vient de paraître chez POL. Je l'ai dit, dans ce texte, vous revenez sur les traces de votre enfance. Et vous êtes clair, c'est une enfance qui a connu la violence du père, l'épuisement de la mère. Et aussi des envies d'ailleurs assez urgentes. Cette histoire, vous l'avez écrite, vous l'avez couchée, voilà, noir sur blanc. Maintenant, en parler à haute voix, c'est un autre exercice, j'imagine.
Oui, c'est vrai, j'appréhende un petit peu, oui. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre et qu'il a cette forme, parce que c'est ma façon de m'exprimer sur le sujet. Mais ajouter, dans la conversation, en tout cas, je ne sais pas si je pourrais ajouter ou reformuler, mais en tout cas, pas particulièrement entrer dans le détail, parce que vous savez, la mémoire, c'est une chose qui est faillible et qui est assez étrange à manipuler. C'est une matière très, très, très instable. Donc, c'est pourquoi le livre, l'écriture, ça permet quand même de manipuler ces choses-là, un peu comme de la nitroglycérine, avancer lentement avec ce travail de la mémoire. Mais enfin, lançons-nous quand même.
Oui, c'est ça, on va y aller quand
oui,
même.
Oui, oui,
alors,
bien sûr.
On va commencer par le titre, c'est simple, oui. Ça c'est pas mal de commencer par les titres, la figure. Oui. Alors cette figure, c'est quoi Bertrand Belin?
Dans le livre, c'est le nom que j'ai donné à une entité qui est un peu un genre de double intérieur, enfin en tout cas d'interlocuteur intérieur. Vous savez, moi depuis longtemps, quand j'écris des livres, je n'ai pas écrit beaucoup, mais quelques-uns, la forme du monologue intérieur est quand même un peu dominante. Hein. Mm-hmm. Et cette fois, pour me sentir un peu moins seul, j'ai un peu disséqué cette voix intérieure pour lui donner un vis-à-vis et pour qu'il y ait conversation, pour qu'il y ait un rapport d'échange. Et donc la figure, c'est cet autre qui est mêlé, tressé, tissé à celui qui peut être moi, si bien qu'on peut les confondre l'un avec l'autre, quoi.
Vous dites à la fois mon Sancho Panza et ma trompette intérieure, c'est-à-dire oui. qu'elle rend pas toujours service, cette figure.
Non, bien sûr que non, parce que c'est aussi la trompette du ressassement. C'est l'endroit aussi où se manifeste peut-être où s'énonce dans le silence de la boîte crânienne les choses qui fâchent, ce qui fait le germe de l'angoisse. Oui. Mm-hmm. Et puis parfois aussi avec ce même interlocuteur qu'on trouve des solutions d'apaisement, de patience, d'espoir. Mm-hmm. Donc je pense pas que ce soit réellement deux personnes en réalité, hein. Mais comme il y a le facteur temps. Grâce au facteur temps ou à cause, ou consécutivement à la présence du facteur temps, eh bien, il y a une sorte de pendulation comme ça, qui fait que c'est pour le bien ou pour le moins bien, pour le très bien ou pour le plus mal.
Cette figure, elle est toujours là?
Ouais. Je pense que c'est beaucoup plus simple que ce que je pourrais en dire. Je pense que chacun peut se faire une idée de ce qu'est la figure quand on s'endort, qu'on se réveille la nuit, ou qu'on est tout seul tout à coup absorbé par des pensées qu'on n'a pas réellement choisi de convoquer dans son esprit, mais qui nous assaillent. En particulier, ça se remarque quand ce sont des choses qui sont enquiquinantes, l'enquiquinement, le ressassement. Mais ça peut être aussi des motifs plaisants qui sont là, qui font notre humeur ou qui font qui nous éclairent comme ça pendant un jour, 24 heures, une heure, un mois où on est dans tel état, puis après ça bouge un peu. C'est ça, une tempête ou un compagnon.
Est-ce qu'elle aide à écrire, à créer la figure?
Ouais, je pense que quand on écrit, on est installé avec. Lorsque j'écris, je suis installé avec la figure, à la même table.
Alors, Bertrand Belin, on va continuer évidemment à parler de votre livre et puis de votre travail d'écriture justement en général. Mais d'abord, on va écouter votre langue et par la même occasion votre voix. Donc ça, c'est quand même le confort absolu pour nous. C'est vous qui allez nous lire un passage de la figure.
Ce n'est pas avec la famille entière que je voulais couper les ponts, seulement avec le chef de famille. C'est un grade, hein, c'est le grade de chef, ça en dit long. J'ai coupé les ponts et j'ai très bien fait. Et depuis donc, je suis là, dans les parages. Sans remords ni regrets, comme on dit. Sans espoir non plus, quand j'y pense. L'espoir, il viendra, mais il viendra plus tard, quand il sera devenu absolument indispensable. C'est bien fait, hein, comme c'est bien fait. C'est la décision de rester en bas de l'immeuble qui a engendré en moi la figure, du moins, il me semble. Mais si ça se trouve, la figure était déjà là, avant, dans le champ. Je n'en sais rien, toujours est-il que, sans elle, il n'y aurait pas eu de dissidence envisageable. Je n'aurais pas tenu le coup sans elle. Ça, j'en suis certain. La figure n'est pas vraiment la personnification de l'espoir. Non. Comme je le disais tout à l'heure, l'espoir n'arrive que plus tard. Il y a d'abord eu la figure, un schisme stratégique. Je ou nous sommes séparés. Qui voudra me croire quand je lui dirai que j'ai commencé ma vie en animal ? Car avant la figure, je le jure, j'étais rassemblé. Manger, boire, dormir, éviter les coups. Ces missions accomplies dans un éther poisseux et acide où la violence se frayait des passages. Un folklore bruyant me descendait les artères, les coups pleuvaient. J'ouvrais des caves pour mourir dans un sous-monde que je croyais être le seul au monde. Pas la moindre velléité de révolution, alors que désirer d'ailleurs. J'avais tout. Pendant des années, je n'ai rien vu du reste de l'univers connu. Un monde plein de dangers, pas de bonté, pas de beauté, ni tout à fait le contraire, la vie comme elle va, quoi, dans le mal. Le mal n'est pas le contraire du bien, à mon avis. C'est précisément ce qui reste quand on enlève les deux. Dans un monde où il n'y a ni bien ni mal, tu peux être à peu près sûr qu'il y a le mal.
Merci Bertrand Belin. La figure, moi, quand je vous entends le lire comme ça, j'ai l'impression qu'il a été écrit pour être lu, ce texte.
Oh oui, je suppose que j'y pense lorsque j'écris, parce que c'est vrai que je me chante les phrases. Lorsque j'écris, c'est peut-être une déformation. Mais je pense que non, c'est pas une déformation de mon activité de chanteur ou d'auteur de chansons, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'écrivaines et d'écrivains qui ont leur propre chant, parce que c'est assez proche du chant, quand même. Et puis, si je racontais une histoire qui mettait en scène des personnages complètement extérieurs, comme je l'ai fait dans Grand Carnivore, par exemple, qui aborde un univers pas du tout biographique, en apparence en tout cas. Bon, bah là, la prosodie est différente et je pense que l'oralité se trouve aussi d'être dans un autre état. Là, c'est un peu ma langue, c'est un peu comme ça que je le dirais, c'est-à-dire avec une certaine patience, une certaine politesse, une certaine. Voilà, mesure, quoi.
Oui, et puis une forme de distance.
Oui, une forme de distance, oui.
D'humour un peu à froid, quoi, comme ça.
Oui, d'humour qui est le signe d'une précaution, bien sûr, comme on sait.
Oui. Bertrand Belin, quel est le processus qui a abouti à ce que vous racontiez, à ce que vous écriviez cette histoire, maintenant ? Comment c'est... Voilà, ça a mûri, quoi.
Si on regarde un peu plus près, bon, de toute façon, vous voyez, j'ai une façon de faire qui est un peu indirecte. Hein. J'invente des dispositifs pour parler. On pourrait dire de toute façon schématique que je tourne autour du pot, mais c'est vrai que je tourne autour du pot. Mais c'est l'endroit où je me trouve. Je me trouve à distance d'un centre, hein, c'est sûr. Et du coup, ben, je fais ce que j'ai, c'est-à-dire des allusions, des détours, des ellipses. J'ai toujours fait ça, et dans mes chansons et mes précédents livres, on trouve des traces de tout ça. Hein. Dans Requin, il était déjà question de cette violence familiale. Dans Littoral aussi, dans Vrac également. Donc, je ne dirais pas que je commence avec ce livre-là. Il y a vraiment beaucoup de traces.
Cette forme-là, hein, quand même, elle est précise. Elle est, ouais. Vous y allez vraiment là.
Je suis content que vous le disiez, mais... j'y vais vraiment. Moi, j'ai le sentiment d'y aller vraiment aussi. Et parfois, j'ai des retours sur ce livre qui mettent surtout en lumière la tergiversation. Mais la tergiversation, c'est un élément de technique narrative.
Oui.
Voilà, parce que c'est aussi un livre qui ambitionne de trouver une place dans ce que se trouve être la littérature. Donc, oui, je pourrais être plus précis, je pourrais être moins ganté, si on veut. Mais enfin, en tout cas, j'ai le sentiment, moi, d'y aller quand même. Ouais.
Oui, beaucoup. Mais c'est vrai ce que vous racontez. Il y a quelque chose de programmatique aussi. C'est-à-dire que vous, en même temps que vous racontez, vous racontez que vous racontez.
Oui. Parce que dans la vie, je me raconte cette mémoire. Mm-hmm. Et donc, le livre essaie de transmettre l'expérience de ce que c'est que de vivre avec cette mémoire qui vient, qui part, qui ressasse, qui se pose, qui digresse, qui, parfois, a la force de se supporter elle-même, parfois moins. Et le livre fait ce parcours, il me semble, tente de montrer par l'exemple, ce que c'est à l'intérieur de l'heure ou des 2 heures de lecture ou 3 heures de lecture que le livre nécessite. Si on le lit d'une traite, on passe par ces moments d'impatience, d'espoir. Je crois, c'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas.
La forme, vous avez trouvé tout de suite la forme de ce récit ?
Non. Je me suis lancé des paris.
Ah.
Oui, je me suis lancé des paris et je me suis dit, ok, alors il y a la figure. Mmh. Et c'est comme des obsessions. Quand j'écris des chansons, c'est pareil. J'ai des figures au sens, par exemple, du livre de géométrie scolaire, la figure numéro 1, figure numéro 2. Il y a des figures qui m'apparaissent. Souvent, il est question de vocabulaire, plus souvent de vocabulaire simplement que de syntaxe ou même d'histoire. C'est parfois un mot qui me semble tout à coup arriver là comme un œuf, et que je dois le couver pour voir ce qui va en sortir, quoi. Là, c'était la figure qui est devenue cet interlocuteur intérieur. Il y avait la question de l'homme dans l'homme. Il y a de l'homme dans l'homme, mais certes, il y a de l'homme dans l'homme, mais bien y regarder, il doit s'y être glissé aussi autre chose. Hein. Qu'est-ce qui fait que le lait tourne ? Mm-hmm. Et donc j'ai ces choses-là. Puis après, je me dis voilà, c'est ça le livre. Et après, il faut déployer un peu à la manière d'un archéologue ou d'une archéologue qui, avec son pinceau et ses outils, aurait découvert une vertèbre dans le sous-sol. Et puis doit dégager la terre autour pour voir ce qui va apparaître, à quoi cette vertèbre appartient, à quel récit, à quel animal, à quelle chose. Donc je fais ça en écrivant, c'est comme si j'enlevais, c'est un peu de la sculpture, quoi.
Est-ce que vous savez ce que vous vouliez faire exactement, ou est-ce que, au contraire d'ailleurs, est-ce que vous vous êtes dit ce que je veux pas faire, c'est ça?
Ah non, c'est ça que je voulais faire.
Voilà,
c'est ce que je voulais faire.
Il y a pas de négatif. C'est pas en négatif que vous l'avez construit.
Non, même si je suis obligé de me mettre a posteriori en adéquation avec le livre que j'ai écrit, qui me surprend quand même parce que je l'ai pas écrit avec un plan. J'ai écrit avec un métabolisme, mais pas vraiment un plan. Et donc le livre ressemble à quelque chose que je n'avais pas en tête avant. Mais seulement, je suis pris dans la double tension de ne pas réellement désirer parler de tout ça, d'être conduit à le faire malgré tout, parce que c'est dans mes nerfs, quoi. Et puis aussi parce que j'aime écrire, parce que j'aime la fantaisie, j'aime le conte, parce que j'aime la matérialité de l'écriture, l'encre, les pages, la magie de la communication comme ça, parce que c'est un livre qui est devant moi, il est rectangulaire, il est en papier, si on le pose, il dit rien du tout, il faut entrer, il faut se mettre en route pour le lire. Ça vient de ma mémoire. Qu'est-ce que c'est ? C'est un cerveau, c'est quoi ? Des molécules, de l'électricité. Je ne sais pas exactement ce que c'est, tout ça. Une vie qui apparaît, quoi. C'est vraiment la dimension qu'il faudrait faire je devrais m'intéresser. D'ailleurs, je m'y intéresse à la dimension scientifique de la mémoire,
hein,
et de la communication, mais je ne suis pas peut-être assez... je ne vais pas assez, peut-être, quotidiennement m'intéresser à ces sujets pour acquérir des connaissances sérieuses. Mais enfin, c'est ça l'idée, quoi.
Je voudrais vous faire écouter quelqu'un que vous aimez, que vous citez souvent d'ailleurs, et qui est complètement en écho avec ce que vous venez de dire. C'est Olivier Cadiot, qui est également dramaturge. J'en écoute.
Le vrai beau moment d'écriture, pour moi, c'est pas dans cette fabrication qui est vraiment ardue et lente et assez, pas douloureuse, mais très, enfin, qui demande des étapes de travail assez longues, etc. C'est le moment où le livre est pratiquement fini et que je repère des chocs entre des thèmes. Et c'est pour ça que je m'occupe des détails. C'est comme si je faisais et finalement, l'arbre me cache la forêt. J'ai beau être un contrôle fric, comme on dit, c'est-à-dire de travailler beaucoup, finalement, dans le sens énormément, de retravailler énormément les choses jusqu'à plus soif. Ça laisse devant un énorme inconscient qui se... Et le texte va tout d'un coup produire des correspondances, comme disait Baudelaire. Alors, mais vraiment des correspondances incroyables. Vous dites, mais ça, des choses énormes que je ne vois pas moi-même. Et ça, si vous voulez, c'est le bonheur. S'il y a un bonheur dans l'écriture, c'est quand on devient lecteur de soi-même. C'était comme si vous étiez dans un appartement et que vous n'avez pas vu qu'il y avait une porte qui s'ouvrait de l'autre côté. Et tout d'un coup, vous voyez l'espace vu d'un autre côté, comme dans Alice au Pays des Merveilles. Je cherche ça en écrivant, au fond. C'est ce sentiment que j'ai envie d'obtenir.
Voilà, Olivier Cadio, il était au micro de Laure Adler sur France Inter. C'était en 2021. Est-ce que, comme lui, ça vous arrive d'être surpris par ce qui se ressort une fois que le livre est fini?
Oui, oui, c'est ce que j'exprimais en disant tout à l'heure que je devais me mettre en conformité, reconnaître que j'en suis l'auteur a posteriori, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose se passe dans le temps de l'écriture où on n'est pas tout à fait seul, quoi, et le livre est un peu plus grand que soi, quoi, ou en tout cas un peu à côté. Mais dans ce que dit Olivier Cadio, je reconnais aussi cette expérience, c'est-à-dire que pendant l'écriture ou avant d'avoir, si on veut, publié ou rendu le texte à son éditrice ou à son éditeur, eh bien, c'est vrai qu'on peut être surpris de voir apparaître ce qu'on croyait des parties disjointes ou des préoccupations disjointes, des éléments un peu totémiques, un peu ou symboliques, qui nous font voir que en fait on se préoccupe particulièrement de tel ou tel sujet. On savait pas qu'on était préoccupé particulièrement pour tel ou tel sujet, et du coup, ces éléments d'apparence disparate, eh bien, on va commencer à les coudre ensemble, ce qui ajoute des pages ici et là. Et le livre a sa propre vie. De ce point de vue, il se génère, quoi. Et ça, c'est on devient un genre de jardinier.
C'est ça. Vous parvenez à être lecteur de vous-même. C'est
oui, oui, oui. Ouais. Enfin, c'est-à-dire non, pas tout à fait, parce qu'une fois que le livre est terminé, je me fais une idée de ce que pourrait être sa lecture. Lorsqu'on le découvre, les lectrices et les lecteurs qui l'ont déjà eu dans les mains, qui l'auront peut-être, eh bien, vont vivre une expérience de découverte que moi j'ai perdue en l'écrivant, que je n'aurais pas. J'avais un fantasme, un idéal, peut-être des pronostics ou des choses comme ça dans l'esprit. En le faisant, je me représente, j'imagine aussi que j'ai la capacité d'être un lecteur lambda, ce qui n'est pas tout à fait exact, je pense. Et donc, ce que c'est que d'écrire ce livre, j'en ai pas la moindre idée réellement. C'est ce que je découvre un peu en ce moment et que je vais découvrir au cours de l'année avec les lecteurs et lectrices que je rencontrerai.
Est-ce que l'écriture est un moment heureux? Parce qu'Olivier Cadio, il dit quand même que le passage de l'écriture, c'est pas forcément un grand plaisir.
Alors pour moi, c'est les moments d'écriture sont toujours un plaisir.
Ouais.
Mais je travaille aussi beaucoup. Je laisse pas mal d'espace entre les périodes de travail, qui sont des secousses un peu pour moi. Chez moi, ça se passe comme ça, un peu en secousse, tout à coup, pendant 10 jours, 15 jours, je ne fais que ça. Puis après, pendant 2 mois, je ne fais que vivre avec le goût que m'a laissé cette expérience de plonger dans l'écriture. Et c'est dans ces périodes où je n'écris pas, mais où je convoque le souvenir de ce que j'ai fait comme travail, que c'est le plus difficile. C'est là où je me dis, parce que c'est là qu'intervient parfois l'aquabonisme, où on peut se dire, bon, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler, mais la qualité de ce plaisir ou son intensité ne garantit pas du tout la pertinence de ce que j'ai écrit. Ce sont deux choses qui sont différentes, quoi. Donc les doutes, quoi, le doute, le bien fondé de notre entreprise, ouais, c'est des choses qui sont un peu difficiles parfois. Mais quand
j'y
reviens,
c'est plus intense que quand on écrit un album, par exemple.
Ben c'est plus solitaire.
Ouais.
C'est plus solitaire, et selon la matière qu'on manipule, la matière biographique, je peux pas me faire beaucoup aider par les autres. La musique, je travaille avec des camarades, Thibaut Frisoni notamment, je vais le dire, prononcer son nom, qui avec lequel je travaille beaucoup. Donc on a un rapport une dynamique qui est très différente.
Alors dans ce livre, vous racontez donc cette histoire d'enfance. C'est moi je l'ai vu comme ça, cette histoire d'un refus. Tout en me disant, mais est-ce qu'un enfant peut refuser? C'est toute l'ambiguïté de ce texte. Il refuse d'investir et de vivre dans l'appartement familial. Il choisit de vivre au dehors, au pied de la barre. Un peu comme le baron perché, en fait. Il y a un petit côté comme ça d'Italo Calvino. Cette métaphore du bannissement, c'est quelque chose qui revient dans votre œuvre. Il a toujours été là.
Oui, c'est vrai.
Pourquoi vous l'avez sollicité dans cette histoire-là?
Ça permettait d'évacuer une chose qui est impossible pour moi à faire, à écrire. Je ne désire pas, et je crois en être incapable, c'est-à-dire de rapporter ce qui a été comme cela a été. D'abord parce qu'il y a une distance temporelle, et que la mémoire est une chose étrange, et que j'ai pas pris de notes, vous en doutez bien, lorsque j'avais 8, 10, 12, 15, 16 ans.
Mais ça me fait penser à une de vos paroles où vous disiez « la mémoire ne tue jamais son cheval ».
Oui.
C'est une belle phrase de vos albums.
Oui, ouais. C'est ça. On peut savoir ce que... comme c'est fougueux, c'est un très bon compagnon aussi, la mémoire, incarnée par le cheval. Ouais. Donc ça, oui, ça continue de vivre, bien sûr. Voilà, donc je me suis dit bon ben je suis pas dans l'appartement. Je vais pas commencer à j'ai pas l'envie ou alors j'ai peur d'aborder de façon trop frontale l'événement tragique. Donc je pose un personnage dans un dispositif littéraire qui est du domaine du fantastique, parce qu'on se doute bien qu'un enfant de 3 ans ne décide pas comme ça de pas suivre ses parents et que ses parents le laisseraient pas prendre cette décision tout seul en reste qui reste habité dehors en périphérie de la maison ou de l'immeuble. Mais je choisis ce mode fantastique aussi parce que je crée un pacte avec le lecteur, la lectrice pour dire voilà. On s'achemine dans une matière qui est la mémoire, qui n'est tout à fait ni tout à fait exacte ni tout à fait fausse. Et c'est dans cet entre-deux mondes qu'on navigue au pays des fantômes, quoi.
Le conte, c'est un conte. Vous avez utilisé ce mot-là.
Je l'aurais pas mis en couverture du livre parce que d'abord c'est une dénomination qui pour moi fait référence à des textes plus brefs, même si celui-là n'est pas très long, mais enfin c'est des textes plus brefs. Mais ça a du conte, en effet, ce postulat fantastique, vous voyez, d'un animal qui parlerait ou quelque chose de magique, quoi. Mmh. Et cette magie, c'est aussi une liberté d'enfant. Hein. Et donc, ça restitue une des parts importantes de la liberté des enfants, ou liberté, ou je ne sais pas si c'est perçu comme liberté par les enfants. Je crois me souvenir, enfant, moi, que c'était tout à fait légitime de s'inventer des mondes et qu'ils avaient ils étaient tangibles, ces mondes inventés.
Mais le conte a une fonction d'enseignement.
Alors, oui. Je ne sais pas si le conte a une fonction d'enseignement au moment où il est écrit, ou si on découvre qu'il a une fonction d'enseignement une fois qu'il a été écrit. Vous voyez, je ne crois pas que je serais capable d'écrire un conte qui aurait pour vocation d'enseigner quoi que ce soit. Ouais. Mais par contre, je reconnais que d'un livre, on peut tirer un certain nombre, d'un récit, on peut tirer un certain nombre de moteurs de réflexion qui d'ordre moral ou éducatif, et c'est vrai, mais c'est pas ce que j'ai essayé de faire en tout cas. Mais enfin, du conte, il y a la dimension magique surtout.
Mmh. Pour vous, il a une fonction ce texte, ou en tout cas les textes que vous écrivez. On n'est pas obligé d'aller sur celui-là d'ailleurs. Quand vous écrivez, est-ce que ça a une fonction pour vous? Est-ce que ça, d'une façon un peu moche, est-ce que ça sert à quelque chose?
Oui, vous avez raison de poser cette question. C'est une question qu'on doit se poser tout le temps, qu'on se pose. La seule réponse que je pourrais faire, c'est une réponse de lecteur. Mm-hmm. Parce que moi, je lis des livres aussi, et dans des genres et des choses très, très, très diverses, de toute époque, contemporaine, de la littérature classique, antique. Quand je me pose et que je lis, Je me doute que ça sert à quelque chose. C'est difficile d'aller plus loin dans la réponse, mais je le sais, c'est comme le temps, vous voyez. Quand on sait ce que c'est, mais quand on demande ce que c'est, on ne peut pas répondre. C'est un peu... je ne sais plus qui avait dit ça de la poésie, si c'est Borges ou quoi. On sait ce que c'est, on sait très bien ce que c'est la poésie, mais quand on doit dire ce que c'est une autre affaire. Donc ça sert à quelque chose, oui. À quoi? Je ne sais pas vous dire. Mais j'ai pu sentir dans mon corps, dans la circulation des énergies dans mon corps, en lisant depuis 30 ou 40 ans, que ça sert à quelque chose.
Ouais. Je voudrais vous faire écouter un dernier extrait d'interview. C'est le poète Francis Ponge. On est en décembre 51. Il parle de la façon dont on ressent le monde quand on est artiste.
Il me faut reconstituer la démarche selon laquelle je suis devenu, ne disons pas poète, disons écrivain. Comme tout homme de ce temps, j'ai ressenti, dès que je suis parvenu à l'âge de conscience, le trouble très étendu et très profond dans lequel nous sommes plongés. Vraiment, qu'il s'agisse de l'individu, de la société, de la nature elle-même, peut-on dire qu'ils existent autrement que comme chaos, comme remous, comme désordre? Il faudrait peut-être développer cela pour le rendre à certains sensibles. Le fait est que tout le monde ne le ressent pas. Beaucoup pourtant le ressentent, et les artistes, comme on dit, du fait de leur sensibilité plus aiguisée, d'une façon plus intense, plus douloureuse que quiconque. Pour ma part, c'est dans le domaine de l'expression que je ressens le plus vivement ce désordre, ce trouble. C'est aussi par l'expression que je pense qu'on peut en sortir. parvenir à tenir debout.
Voilà, Francis Ponge en 1951. C'est intéressant ce qu'il dit. Il dit que les artistes ressentent plus intensément le monde et donc peuvent apporter une organisation au chaos en parlant. Mais on peut se dire c'est peut-être l'inverse. C'est peut-être parce qu'on ressent les choses intensément qu'on arrive à en faire quelque chose.
Oui, je pense comme vous. Hein, ouais, je rejoindrai pas Francis Ponge sur ce point-là. Je pense c'est difficile à dire que les artistes ressentent plus intensément le monde. Je pense qu'à un moment donné, on s'est mis à faire un dessin ou à taper sur un seau. Quelqu'un nous a dit « C'est bien, il est beau ton truc. » Puis on persévère dans ce sens-là. C'est ce qui va faire un artiste ou une artiste. Et puis le gamin d'à côté, ce jour-là, il avait pas dessiné. Puis il va faire autre chose de sa vie, vous voyez. On rencontre des êtres extrêmement sensibles au monde dans tous les domaines de l'existence.
Ouais.
L'artiste était un artiste amené peut-être quotidiennement à aiguiser quelque chose peut-être et de ce fait peut-être peut travailler une acuité à la longue du temps, pourquoi pas, hein, c'est, ouais. On peut bonifier quelque chose.
C'est votre métier au bout d'un moment aussi.
Oui, c'est ça, donc comme dans tous les métiers il y a peut-être quelque chose qui s'opère dans le sens d'une amélioration, quoi. Le chaos du monde, oui, moi c'est sûr que je remarque avec jalousie parfois que les autres, je le dis de façon un peu schématique, vous voyez, quand les autres, ce sont les autres. Parfois, un autre ou une autre me semble parfaitement à l'aise dans le monde et ça n'a pas l'air de poser de problème particulier que l'univers ait 13 milliards d'années. Moi, ça me questionne quotidiennement, quoi. Je sais que je suis plongé dans un monde qui est quand même inouï, quoi. Mmh. Et Borges, pour le citer à nouveau, disait qu'il était pas, en plaisantant, mais il y avait une part intéressante dont il disait, c'est pas étonnant que les bébés, à leur naissance, poussent un cri d'effroi parce qu'ils sont plongés soudain dans quelque chose qui est complètement inouï. Je veux dire, il n'y a aucun psychotrope sur Terre qu'on pourrait consommer pour nous offrir un monde aussi invraisemblable que celui dans lequel on est plongé dans ce qu'on appelle la réalité, quoi. Donc, regarde, dans cette pièce, chaque chose qui nous entoure porte un nom, quoi. La lampe, l'ampoule, le micro, l'autocollant, la lumière, la couleur rouge, le livre, la gourde. Si ces choses n'avaient pas de nom, on sentirait peut-être davantage le chaos du monde. Mmh. Donc, le langage, comme le dit Francis Ponge, a un pouvoir d'organiser, de ratifier, de rationaliser, et peut-être d'apaisement, qui vient tenir un petit peu en laisse la folie, quoi.
Merci beaucoup Bertrand Melun, c'est déjà la fin de cette émission.
Ah oui,
merci d'être venu. Je rappelle donc la sortie de votre roman La Figure chez POL et vous serez à la librairie Mola à Bordeaux le 16 et au Mont-en-l'Air à Paris le 17. Nous, ça nous a donné envie d'écouter un titre de vous d'ailleurs, de votre album Tambour Vision. T'as vu sa figure évidemment.
T'as vu sa figure. T'as vu sa
Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Oriane Delacroix, Boris Pino, Marceau Vassy, Zora Vignier, Lise Ripoche et Louis Cosnard. Elle est réalisée par Laurence Malonda avec à la technique aujourd'hui Grégory Wallon.